Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, c'est la reprise du grand jury de la presse immobilière. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison puisqu'on démarre en septembre 2024. Il est 18h33, on a un tout petit peu de retard, mais je vous promets les amis qu'à partir du mois prochain, on sera pile à l'heure. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien pris soin de vous, que vous avez pris des couleurs puisque la rentrée s'annonce... on va dire sportive, voilà. Un numéro spécial justement où on va évoquer le marché. Comme vous le savez, il est de tradition dans le grand jury de la presse immobilière de réunir l'ensemble des journalistes de la presse et de la radio également. Au menu, la météo de l'immobilier qui sera présentée par notre ami Régis Sébille de Bien Ici, comme tous les mois, bien évidemment. Ensuite, on passera à la revue du grand jury. On ne change pas une équipe qui gagne. Les coups de gueule et les coups de cœur, ce sera avec nos journalistes. Et enfin, le grand débat avec, et on ne va pas ménager notre joie de recevoir un grand monsieur de l'immobilier qui est sur le plateau, le ministre. Ah, peut-être un lapsus révélateur. Le président de la FNIM qui est avec nous, Loïc Quentin, entouré de nos journalistes, Bruno Monnier-Vinard du Point. Ça a été, Bruno ? On a passé un bel été.
Parfait, impeccable.
Voilà, ouais, je suis bonsoir très content de vous voir et de vous revoir. Voilà, un bel été avec des belles couleurs. Voilà, il a fait un peu de travaux également. Merci Bruno d'être avec nous. Journaliste au Point, Jean-Marie Bordré est avec nous.
Salut Sylvain.
Mon super complice.
Bonsoir
de la
pour
matinale.
Une fois.
Voilà, bonsoir pour une fois.
D'habitude, c'est oui, bonjour.
Oui, parce qu'il se lève tôt, hein, Jean-Marie. Voilà, le journaliste animateur sur Sud Radio qu'on a le plaisir d'écouter et avec qui j'ai le plaisir également de tourner chaque samedi matin Parlons Immo avec nos amis Grégoire, Darico et Bérénice.
À 9h15, tous les samedis.
Absolument. Notre amie Isabelle Ray-Lefebvre est également avec nous.
Bonsoir voilà. Sylvain.
Auteur, essayiste, journaliste sur tous les fronts. Merci Isabelle, très fidèle au grand jury de la presse immobilière. On a un nouveau player hein, qui vient de plus en plus nous voir maintenant, puisqu'il est le directeur général de Radio Patrimoine, qui est une marque de notre groupe, Web Radio Édition, est avec nous. Il a officié pendant une quinzaine d'années sur les ondes de BFM Business. Il présidait à la matinale. Il est avec nous. C'est Cédric Decoeur.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Cédric ?
Super bien. Ravi d'être là.
Voilà. Et enfin, un immense bonsoir à Loïc Quentin. Comment ça va Loïc Quentin ?
Très bien Sylvain, bonsoir.
Je suis très heureux que vous ayez accepté l'invitation, parce que pour nous c'est symbolique de démarrer la saison du Grand Jury 2024-2025 avec vous.
Toujours un plaisir d'être là.
Merci en tout cas. Voilà, on va démarrer sans plus attendre les amis, il est 18h35 par la météo de l'Immo, tout de suite après ça.
La météo de l'Immo, par Bien Ici.
Comment ça va Régis ?
Très bien et vous Sylvain ?
L'été fut bon.
Très bon.
Alors, mon cher Régis, la rentrée, on va profiter pour faire un petit point de marché, c'est l'usage hein, maintenant en septembre. Alors, un, que s'est-il passé pendant l'été ? On s'est quitté avant les vacances avec un petit signal d'alarme, plutôt un gros signal d'alarme sur le manque d'offres locatives. C'est un drame absolu, hein. On va voir, les chiffres ne se sont pas forcément améliorés. Qu'en est-il ? Nous avions parlé d'espoir également pour la reprise. Est-ce que nous y sommes ? Est-ce que la situation du marché de la transaction est plutôt bonne? C'est la météo de l'Immo. On va commencer avec un état des lieux, notamment sur le marché locatif. Régis, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Alors, comme vous l'avez dit, Sylvain, le marché locatif, on s'est quitté fin juin, début juillet, avec déjà un manque d'offres par rapport aux années précédentes. Donc, ça n'a pas loupé cet été encore, avec moins 16% d'annonces diffusées entre l'été 2023 et l'été 2024. Donc, on était déjà sur un gros manque d'offres auparavant. Le manque d'offres s'est confirmé.
Ça ne s'arrange pas. Hein.
Ça ne s'arrange pas. Au niveau de la tension, pour faire simple, on a une tension qui a été multipliée par 4 par rapport à la période d'avant Covid, avant tous les chamboulements de marché. Donc, c'était vraiment très, très tendu, en particulier dans les grandes villes et les villes étudiantes. J'ai deux chiffres par rapport à ça, enfin surtout un chiffre dans des villes étudiantes, si je prends l'exemple de Rennes, où Rennes, on avait deux fois moins d'annonces de studios à louer que l'année dernière cet été. Donc c'est assez catastrophique. Par contre, j'ai aussi un bon chiffre, c'est celui de Nantes qui est proche de Rennes et qui a vu cette année une meilleure rotation de l'offre avec davantage d'annonces de studios à louer à Nantes que dans d'autres villes comme Marseille, Lyon ou Bordeaux.
Et pourtant, Nantes est une ville étudiante. Hein.
Aussi. Donc il y a eu une meilleure rotation, comme quoi la rotation peut revenir et on peut avoir de l'espoir dessus.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça démontre une chose, c'est que quand la rotation, et c'est ce que dit souvent le président Quentin dans ses émissions, quand la rotation s'opère, on a une fluidité effectivement du marché qui s'opère et qui touche finalement l'ensemble de la chaîne dans la chaîne de valeur. Et en matière de transactions, est-ce qu'il y a des points positifs qu'on peut retenir?
Alors, sur la transaction, on a eu un bilan 2023 avec une situation assez compliquée au niveau de l'offre, qui a atteint un niveau record, et une demande en baisse. Ça s'est joué surtout par rapport au taux de crédit et à la possibilité des acquéreurs de pouvoir financer un bien. Cet été, on va avoir quelques signaux positifs. On avait déjà vu, à la fin du premier semestre, une petite baisse de l'offre d'appartements. Donc cet été, on a toujours cette baisse d'offre qui s'est un peu accentuée avec moins 14% d'annonces d'appartements à vendre et une légère inclinaison sur les maisons au niveau national de 1%. Si on prend la période de janvier à août, donc sur les 8 premiers mois de l'année, on était en gros à moins 4% d'annonces diffusées, ce qui veut dire que si les annonces ne sont plus diffusées, c'est que potentiellement elles sont sorties du marché, ouais,
elles auraient été vendues ou retirées.
Voilà. Et du coup, c'est surtout un signe avec moins d'annonces qui nous dit qu'on a surtout plus d'annonces qui sortent du marché que d'annonces qui rentrent. Donc c'est un bon signe.
C'est déjà un premier indicateur. Est-ce que le temps de diffusion que vous constatez pour une annonce, est-ce qu'il évolue? Parce qu'on avait vu qu'il s'était rallongé justement à cause de la crise et notamment de la désolvabilisation des ménages à cause des taux de crédit trop élevés.
Alors au niveau du temps de diffusion, on est à 84 jours en moyenne nationale avec à peu près une semaine de moins pour un appartement et plus 5 jours pour une maison au niveau national. On est globalement à plus 10 jours par rapport à la situation qu'on connaissait il y a 5 ans et environ plus 2 semaines par rapport à l'année dernière. On a cet attentisme qui est resté et qui a duré sur l'année en fait. Donc même si on a des biens qui sortent aujourd'hui du marché par rapport à l'année dernière, on a toujours ce temps de latence qui s'allonge.
Alors bien évidemment... à l'exécutif, ils disaient qu'il fallait laisser le marché s'auto-réguler, etc. Du coup, ça a plongé toute une filière dans la crise, avec une préconisation sur l'évolution des prix. Est-ce que, quid de l'évolution des prix, est-ce que ça a baissé ou est-ce qu'on maintient toujours des prix qui sont parfois un peu prohibitifs?
Alors, on s'était laissé la dernière fois sur une légère baisse de prix. Quand on regarde sur l'année écoulée, sur les 12 derniers mois, on est sur une baisse de l'ordre de 4% au niveau national, mais c'est une baisse qui concerne surtout les appartements en ville, alors que sur les maisons, étant donné l'écart de prix global entre les maisons et les appartements, surtout les maisons en périphérie, on a une baisse qui se veut beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de 1% seulement au niveau
1%.
National. Voilà, c'est pas grand-chose,
ouais.
Mais cette baisse reste marquée, de toute façon, un petit peu sur la tendance.
Oui, j'aimerais bien avoir la réaction du président Louis Quentin sur ce sujet, sur la baisse. Est-ce que ça vous surprend, une si faible baisse?
Je crois qu'il y a deux types d'observations. Il y a l'observation sur les annonces et l'observation sur la réalité du marché, notamment des actes publiés. Moi, si je reprends l'indice notaire INSEE qui a été publié cette semaine, notamment, bien la baisse moyenne des prix constatée sur une année lycée France entière est de 4,9% pour les maisons et 5% pour les logements collectifs. Donc, on n'a pas du tout la même observation. Il faut raisonner en termes d'actes finalisés, mais il est vrai qu'on sent un ralentissement de la baisse des prix, c'est-à-dire un signe positif arrivé sur le marché, qui est signe notamment d'une amélioration du pouvoir d'achat des Français et qui est strictement lié à la baisse des taux d'intérêt que nous avons connus, qui est passé de 3,20 à 3,60 en l'espace de 6 mois, et qui va se poursuivre, puisqu'aujourd'hui la BCE a annoncé 25 points de base, et on s'attend à 100 points de base de baisse.
Absolument.
Dans les 6 mois. Donc c'est ce qui va redonner une capacité de financement aux acquéreurs, et leur permettre notamment, permettent d'atténuer, d'amortir la baisse des prix que nous souhaitions et qui est salutaire, mais qui continue à être ancrée sur les tendances du marché. Aujourd'hui, un professionnel de l'immobilier, quand il négocie, il s'arme d'une valeur, une proposition de prix à moins 10, moins 12% sur le prix affiché. C'est ça la négociation du terrain, donc ce n'est pas le reflet, je dirais, d'un marché qui repart. Hein. J'ai entendu la crise est derrière nous, c'est, non, oui. C'est pas vrai ça, non. Hein. Peut-être que la crise de l'immobilier est derrière nous, mais la crise du logement est devant nous.
C'est très clair. Alors justement, en juin, la BCE avait annoncé 0,25% de baisse des taux, ça représente 60 points de base, donc on est déjà à quasiment 200 points de base, soit 1% de taux acquis. Quand on sait que l'été représente quand même un tournant, puisque dans les porteurs de projets, notamment les porteurs de projets résidentiels, est-ce que finalement vous pourriez, Régis, nous donner peut-être des hypothèses sur la fin de l'année, ou du moins l'atterrissage prévu pour fin 2024 ?
Alors l'atterrissage au niveau des taux, il est espéré en baisse aux alentours de 3% sur la fin de l'année. Ça, c'est un espoir. Ça sera corrigé en fonction des retours de la BCE, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est le gros espoir, en tout cas, cette baisse de taux de crédit, parce que ça représente pour les acquéreurs du potentiel d'acquisition en plus. Si je perds 0,3 points de crédit, c'est peut-être 15 000 euros de financement possible en plus, et ce qui bloque aujourd'hui. Hein, c'est,
oui.
On va dire 15 000 euros sur un achat immobilier, c'est peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est là où ça joue la différence, et c'est ce qui crée l'attentisme aujourd'hui par rapport à ces prix qui ne correspondent pas en fait au budget réel.
Bah, si on prend la moyenne des prix de transaction, notamment pour la primo-accession, où on était aux alentours des 250 000 euros, entre 180 et 250 000 euros sur les franges, on est tout de suite sur l'apport, sur la resolvabilisation d'une partie de l'apport, oui. Nonobstant les frais de mutation, les droits de mutation sur l'opération.
Voilà. Et du coup, je vais avoir deux signes assez positifs sur cette fin d'année. C'est le premier signe qui est d'abord lié à l'attentisme. Le fait que les gens ont attendu, notamment ceux qui sont restés locataires en bloquant un peu le marché locatif, ont pu mettre de côté et augmenter leur apport. Parce que ce qu'on disait sur les derniers mois, c'est qu'il faut un apport beaucoup plus conséquent pour accéder à l'achat. Donc le fait d'avoir augmenté cet apport avec des prix qui ont une tendance baissière et des crédits qui ont une tendance baissière, on devrait pouvoir repartir. Donc moi, je vais voir le côté positif dans ce sens-là. Et je vais finir juste par un petit point qui est très, très positif. C'était le total des nouveaux crédits immobiliers en juillet qui atteignait un peu plus de 11 milliards d'euros et qui était à un niveau record depuis 12 mois. Donc on peut dire que ça repart sur des taux et des crédits qui sont validés au niveau bancaire. On dit 11 milliards en juillet, par comparaison à juin et mai, qui étaient aux alentours de 8 milliards. Donc c'est une grosse progression sur cet été.
Et on voit d'ailleurs l'orientation des banques, hein, qui veulent reconquérir de la clientèle et donc se remettre à pratiquer, ce qui est tout à fait logique dans leur fonctionnement. Et puis des raisons aussi qui sont liées à la captation d'autres produits, hein, la domiciliation des salaires, les problématiques d'assurance. Et donc c'est plutôt un signe encourageant. Merci beaucoup Régis. Merci. On vous retrouve le mois prochain pour une météo de l'immo. Mais restez avec nous pour participer au débat. C'est parti pour la deuxième partie de notre émission. On va passer à la revue coup de gueule, coup de cœur, la revue du grand jury. C'est tout de suite après ça.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
La revue du grand jury, on laisse la parole, mon cher Loïc, à chaque journaliste qui, chaque mois, nous partage un coup de cœur, un coup de gueule ou un coup de blues. Voilà, c'est free, c'est totalement libre, et la parole d'ailleurs circule très très librement. On va commencer, si vous voulez bien, par Isabelle Ray-Lefebvre. Alors Isabelle, on a un coup de griffe pour les promoteurs.
Oui, c'est vrai que le logement neuf est dans une situation extrêmement difficile, et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. C'est important qu'il y ait de la construction de logements. Mais il me semble quand même que les promoteurs devraient un peu aussi faire leur mea culpa, leur examen de conscience, parce qu'il y a un problème de qualité des logements neufs, c'est certain. Et il y a une étude financée par Leroy Merlin, la grande enseigne de bricolage, qui a été confiée à deux sociologues. Alors c'est une étude qualitative, hein, très restreinte, puisqu'les deux sociologues ont interrogé 11 ménages qui ont acheté dans 4 villes différentes, dans 4 programmes différents, avec 4 promoteurs différents. Et les logements ont été livrés entre 2016 et 2020. Et l'étude s'appelle « L'épreuve du neuf ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des gens qui voulaient acheter du neuf, soit parce qu'ils avaient eu des déboires dans l'ancien, soit parce que c'était des retraités qui voulaient pas de problème, du confort, etc., pour ne pas avoir de soucis. Et en fait, les soucis s'accumulent entre les surfaces très étriquées, les défauts de conception, la porte de la salle de bain qui bute sur le lit. Il y avait un couple de personnes en fauteuil roulant. Il y a trois marches qui se sont invitées et qui ruinent l'accessibilité.
Et la qui n'étaient pas prévues au plan.
Non. La douche est impraticable. Alors le promoteur a dit, oui, il y a une différence de niveau. Ouais, d'accord, mais... des gens qui découvrent que leur terrasse, il y a trois coffrets de VMC qui sont installés, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de déconvenus, plus les malfaçons, qui est quand même la plaie du logement neuf, les retards. Des gens, ils ont dû déplacer trois fois leur déménagement en étant prévenus la veille. Enfin, donc, ce que disent les sociologues, c'est qu'en fait, il y a un vrai travail pour décoder les plans, pour essayer d'organiser sa cuisine, qu'il y avait alors que c'était des gens qui voulaient un produit plutôt clé en main. Et puis, dernière déconvenue, le couple de retraités de Toulouse qui avait vendu la grande maison pour avoir un logement confortable dans un écoquartier, ils découvrent que les trois quarts de l'immeuble ont été vendus à des investisseurs et donc il y a un turnover de location étudiante, etc. Eux qui voulaient voisiner, qui voulaient partager.
Ils font la fête.
C'est pas qu'ils font la fête, mais c'est qu'ils ont des voisins. Je crois qu'il y a que 90% d'investisseurs et 10% d'occupants.
C'est étonnant quand même pour l'histoire des trois marches, parce que globalement, quand vous êtes en fauteuil roulant, c'est probablement une demande qui est faite d'avoir un logement
accessible. Mais en passant devant le chantier, ils ont vu apparaître ces trois marches.
C'est pas moyen de démontrer ça.
Alors, ils leur ont fait quand même
une rampe.
Une rampe, j'allais dire, de lancement. Une rampe qu'ils ont dû payer 40 000 euros. À leurs frais.
Ah oui, quand même. Oui, effectivement.
Enfin, et puis la douche qui devait être accessible n'est pas praticable. Il y a une photo où on voit que ça sert de cagibi.
C'est presque une tromperie sur la marchandise. Là.
Mais bon. C'est quasiment impossible, puisque aujourd'hui la norme handicapée qui est l'obligation qui relève du promoteur d'avoir à la fois une gération parfaite d'un fauteuil roulant d'une pièce d'eau, une gération parfaite effectivement dans une chambre, un accès direct effectivement à un balcon. Donc c'est une malfaçon et dans tous les cas, la conformité ne peut pas être obtenue par un maître d'ouvrage dans ce cas-là, c'est pas possible.
C'est donc
alors
une réserve qui
a changé. Il n'y a aujourd'hui que 20% des logements qui doivent être accessibles, les autres non pas, les autres doivent être adaptables, comme on dit.
Donc ils ont acheté de l'adaptable et ils sont fait avoir.
L'étude, très bien, c'est sacralisé aujourd'hui, on va dire, par cette étude, mais je crois que si on fait un tour de table, on a tous 10, 15, 20 exemples de copains, de familles, d'entourage qui ont eu exactement les mêmes problématiques. Hein. Enfin, à côté de chez moi, j'ai un immeuble qui goûte sur le trottoir et quand je pensais que c'était quelqu'un qui arrosait généreusement ses plantes et contact pris, non, c'est juste parce que le promoteur a mal fait l'étanchéité de la descente d'eau pluviale et du coup ça goûte.
Ou du coup, c'est la conception aussi.
Voilà, et toute la façade est en train de devenir toute verte. Enfin,
le mur végétal qui se
Je vais quand même apporter, si vous voulez bien, une petite nuance que je suis allé sur pas mal de chantiers récemment. Je rassure quand même un peu les Français, c'est pas le cas de tous les promoteurs.
Il y en a des grands dans le.
Non, mais effectivement, attendez, il y a un échantillon qui a été pris sur 12 ménages, et d'ailleurs, c'est le Roi Merlin Source qui fait ce type d'étude. Hein. Parce que chez le Roi Merlin, il y a un think tank qui publie ce type de tendance avec, effectivement, des échantillons qualitatifs. Je dis pas que c'est pas le cas, hein. Je dis que ça reflète pas forcément le paysage global et qu'il faut parfois aussi nuancer le propos. Alors, il y a aussi un coup de cœur, hein, parce qu'il y a un coup de cœur chez Isabelle, bien sûr. Alors là, je suis étonné, parce que c'est un coup de cœur au notaire. Ça ne vous ressemble pas, Isabelle ?
En fait, c'est quand même des gens sérieux, les notaires.
Oui, oui. Pour le congrès, le 120e congrès des notaires.
Les notaires vont se réunir en congrès fin septembre à Bordeaux. J'allais dire à Deauville, mais c'était l'année dernière. À Bordeaux, sur le thème l'urbanisme durable. Et ils produisent toujours un épais rapport avec des considérations juridiques très intéressantes. Et là, ils se sont aperçus que le droit de l'environnement s'insinuait dans tout le droit de la construction, le droit de l'urbanisme, et qu'ils ont fort à faire pour alerter les acheteurs des nouveaux risques environnementaux, submersion marine, érosion côtière, incendies, sécheresses. Savez-vous que il y a 9 communes du Var dans le pays de Fayence qui ne délivrent plus de permis de construire parce qu'il n'y a plus d'eau.
Oui.
Il y a un.
Oui, oui. Je crois même que pour déposer les permis, il faut démontrer qu'on a la ressource en eau. Hein. Vous
l'aviez
déjà
évoqué. Donc le promoteur, pourtant, juridiquement, c'était constructible. Les règles d'urbanisme permettaient ça, mais la communauté d'agglomération de communes a dit
d'arrêter les frais.
Qu'il fallait arrêter les frais. Le promoteur a attaqué devant le tribunal administratif qui a dit oui, c'est un refus légitime. Et maintenant, les préfets, dans les PLU, parce que vous savez,
ouais.
Toutes les communes, à cause du zéro artificialisation nette, doivent refaire leur PLU, leur plan local d'urbanisme, et les préfets ont mission de dire est-ce qu'il y aura assez d'eau. Donc, ces risques, maintenant, sont... Parlons aussi des retraits et gonflements d'argile. Et donc, ces risques, on se demande... Les assureurs ont du mal à les indemniser. L'érosion côtière n'est pas une catastrophe naturelle, donc n'est pas indemnisable. Donc les notaires, dans les actes de vente, devront alerter. Alors là, les agents immobiliers doivent le faire aussi. Il y a une toute petite mention, aller voir sur Géorisque, etc. Mais je trouve qu'ils n'alertent pas assez.
On reprendra ce sujet parce que c'est très important, effectivement, et on salue cette initiative. Et le fait que dans les contenus, d'ailleurs, du Congrès, il y ait des notaires, ça dépasse bien largement aussi le cadre strictement juridique et ce sont des piliers incontournables de la profession. Merci beaucoup.
Et surtout, ce qu'il faut dire, Isabelle, aussi des notaires, puisqu'on a essayé d'en dire la moitié du mal, non, c'est que ce rapport du Congrès, c'est un véritable outil qui est extrêmement travaillé et qui a bien souvent servi de base à des évolutions législatives et réglementaires. Donc voilà, c'est pas juste du lobbying, on va dire, c'est un énorme travail
oui,
que font...
Oui, c'est pas un discours marketing, ça se traduit véritablement dans les faits.
C'est pour ça que c'est parfois assez abscon et qu'il faut vraiment rentrer dedans parce que c'est une mine.
Alors moi, je vous propose qu'on rêve un peu. Parce qu'avec lui, on rêve toujours, chaque mois, avec de très très jolies initiatives. Je vous propose qu'on cède la parole à notre ami Bruno Monnier-Vinard, avec un coup de cœur architectural, avec toujours des photos qui ont été transmises. A priori, notre ami Théo va mettre les photos à la technique. Pour une piscine, Bruno.
Alors, oui, alors à nouveau, c'est une piscine, comme le dernier grand jury.
Absolument.
Hein, parlé de la piscine.
Ouais, il aime beaucoup les piscines.
De Saint-Denis. Là, je vous parle d'une piscine municipale à Paris qui s'appelle Georges Valeret.
Voilà, on va voir l'image.
Qui se situe à la Porte des Lilas, à Paris, dans le 20e arrondissement.
Wow.
Et elle a été créée il y a un siècle, hein, en 1924, pour les JO d'été.
Très beau.
Et là, elle a servi, non pas pour les JO, mais de site d'entraînement pour les Paralympiques. Et quelle particularité elle a, on le voit un petit peu, elle a un toit mobile. C'est-à-dire qu'elle quand elle a été rénovée en 1986, elle avait gagné un toit ouvrant. Et là, cette charpente avait vieilli. Et donc l'agence AIA a remplacé cette charpente en bois. Ce sont 12 arcs en pin douglas lamellé et collé, c'est pour les techniciens, issus des forêts, des Vosges et du Jura. Alors ils coulissent sur ce bassin olympique qui fait 21 mètres de large par 50 mètres de long. Et donc on peut profiter, les baigneurs peuvent profiter du soleil et du grand air. Et qu'est-ce qu'on a fait de la charpente ancienne ? Eh bien, c'est malin, on a recyclé pour faire le mobilier du hall d'accueil, qui a été donc prélevé sur l'ancienne charpente. Et pour Isabelle Ray, je précise que les vestiaires et les douches sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Sans marche.
Voilà. Et ça, c'est mon coup de cœur. Et j'ai un petit coup de gueule qui est un petit peu dans le prolongement de l'eau. Hein. Moi, c'est le trop-plein de sirènes à Paris. Alors, je ne parle pas de Anne Hidalgo dans la Seine, hein, mais je parle des avertisseurs sonores, l'usage abusif des avertisseurs sonores. Ouais. Là, c'était le pompon avec les Jeux Olympiques, hein, puisque, mais de manière générale, les difficultés de circulation dues au plan de mobilité hein, font que les véhicules dits prioritaires, qui le sont souvent, hein, mais pas toujours, font un usage accru de ces avertisseurs sonores. Et dans ce plan de mobilité aussi, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de sens interdits, etc. Et donc, il y a des axes de délestage où il y a beaucoup plus de voitures et de motos et beaucoup plus de sirènes, voyez. Et ça, c'est un vrai impact, une vraie nuisance pour les gens qui ont de l'immobilier. Si vous avez, j'ai l'exemple, hein, un exemple très concret d'une personne qui habite. Alors là, c'est le pompon. Il est à la prison de la santé à côté aussi. Et il a des grandes baies vitrées avec un double vitrage, mais ça n'arrête pas c'est le bruit de ces sirènes.
Vous avez entendu ce qu'a annoncé Anne Hidalgo sur le périphérique parisien.
Voilà.
De baisser la vitesse pour des raisons de nuisance sonore. Ils estiment que ça réduirait de plus de 30% les nuisances sonores. Je ne vous parle pas du branle-bas de combat. Et apparemment, Valérie Pécresse et la région Île-de-France s'y opposent fermement. Vous en avez entendu parler, je pense.
Parce que les électeurs de Valérie Pécresse sont dans toute l'Île-de-France. Donc souvent, ce sont des Franciliens que vous croisez sur le périphérique. Alors même que les électeurs d'Anne Hidalgo, de toute façon, ne roulent pas sur le périphérique. Donc ça ne lui coûte rien. Okay. C'est même une manière de punir ceux qui n'ont pas voté pour elle.
Remarquez, ils ne roulent pas du tout. Si, ils roulent en vélo. Entre le café de Flore et la rue Saint-Jacques.
Oui.
Je ne sais pas ce que valent les chiffres, mais Valérie Pécresse dit que c'est 2 à 3 décibels.
C'est beaucoup,
2 à 3 décibels avec la réduction de la vitesse, et 7 décibels si on change l'enrobé phonique, ce qu'elle se propose de faire.
Mais on revient toujours sur les mêmes sujets.
Mais je croyais qu'il y avait déjà des enrobés phoniques.
Parfois polémiques.
Et juste une chose, moi je demande aux auditeurs de faire le test chez eux, de compter combien de temps une sirène passe à une autre sirène, voilà, le laps de temps qu'il y a entre deux sirènes lorsqu'ils habitent dans les centres-villes.
Attendez, il n'y a pas que les sirènes, il y a aussi l'usage intempestif des klaxons. Tout à l'heure, j'ai été obligé de prendre la voiture pour aller chez un médecin. C'était incroyable, c'est surréaliste.
Ça défoule quand même.
Je pense que c'est lié. Vous savez, je vais vous dire, vous prenez un bon provincial qui vit dans une petite ville paisible, etc. Tiens, prenez en Bretagne. Vous l'amenez à Paris, 6 mois après, c'est devenu une bête féroce. Hein.
C'est... 3 jours suffisent.
Merci.
Vous prenez un cycliste.
Oui.
Et puis, 3 jours à Paris, ça devient un...
Mais il distingue plus.
Un forcené.
Je suis tout à fait d'accord. Vous savez quoi, les amis? Je propose qu'un jour, on fasse un grand jury avec une vision un peu plus philosophique de comment la ville peut altérer parfois des comportements de gens gentils qui arrivent de province et qui deviennent des fous furieux au bout de quelques mois. Merci, Bruno. Jean-Marie, alors, cri d'alerte à propos du surtourisme. Alors là, je partage complètement l'idée. Hein. C'est quoi?
Bon, d'abord, c'est les témoignages de tous ceux qui sont rentrés de vacances, selon les destinations où ils sont allés. L'Airbnbisation de certains centres-villes qu'on retrouve notamment dans des destinations balnéaires, là où vous avez des difficultés à vous loger. Alors, c'était le cas déjà avant à Biarritz, où les Basques ont beaucoup de mal à se loger. Mais vous avez des villes qui étaient plutôt épargnées par le phénomène et où on voit des premières tensions. À Marseille, par exemple, on présente jamais en France Marseille comme une ville touristique. Ça le devient, c'est une très belle ville d'abord. Et en plus, les calanques tout autour sont absolument magnifiques. Et vous retrouvez par moments certaines artères où vous ne pouvez plus trouver en plein centre-ville de logement quand vous voulez étudier sur place, parce que les habitants préfèrent les louer sur Airbnb à des touristes. Ça s'entend. Vous avez une entreprise qui s'appelle Evaneos, qui est un tour opérateur, qui communique beaucoup sur sa vision du tourisme, un tourisme plus durable. On vous emmène en vacances dans des endroits moins pollués, et qui a décidé de lancer un index du sur-tourisme avec le cabinet Roland Berger, qui est très sérieux, sur plusieurs critères. Et c'est assez intéressant. intéressant. C'est-à-dire que vous voyez que la France n'est pas épargnée du tout par le surtourisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment dans le domaine de la surfréquentation estivale des grandes destinations. Et là, on se rend compte qu'on est presque aussi touché que l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal. Si vous allez à Lisbonne, par exemple, vous verrez certaines artères où il y a davantage de gens qui parlent anglais, par exemple, que de gens qui parlent portugais, ce qui est un bon indicateur. Vous avez d'autres domaines où on retrouve un problème encore plus grave, c'est le surtourisme balnéaire. Ça ne surprendra personne. Et c'est l'Espagne qui est la plus ravagée là-dessus. Et le dernier point qui, malheureusement, n'est pas noté dans cet index, c'est, alors la France n'est pas concernée parce que tout coûte plus cher en France qu'en Europe de l'Est, c'est le surtourisme festif. On en parle très peu. Mais vous pouvez demander à tous vos amis qui font des enterrements de vie de garçon, la moitié d'entre eux vont aller soit à Prague, soit à Budapest. Et vous retrouvez dans certains endroits.
Dublin aussi, c'est
ou Dublin, par exemple, mais c'est cher, Dublin.
Oui, bizarre.
C'est ça la différence par rapport à, par rapport à Prague.
Et vous retrouvez Lisbonne, à Prague, où c'est pas cher du tout de se pochetronner la gueule à Lisbonne.
Sauf qu'à Prague, précisément, c'est spectaculaire. Vous êtes dans des quartiers quasiment haussmanniens, de la même époque à peu près que
c'est
le Paris haussmanien.
C'est
sublime. Vous vous retrouvez dans des 120 mètres carrés magnifiques qui auraient pu être formidables et qui sont aménagés en dortoir. Le premier signe, c'est quand vous commencez à entrer dans l'immeuble et vous voyez juste à côté des sonneries des boîtes à clés. Les boîtes à clés, c'est le meilleur système fait qu'on laisse les clés, vous les ouvrez, vous avez un code et comme ça, le propriétaire ou l'agence n'a même pas besoin de vous envoyer quelqu'un pour vous faire. Et là, vous entrez dans un appartement qui serait un 120 mètres carrés qui devrait coûter une fortune parce que c'était un appartement de grands bourgeois à l'origine à Prague avant le communisme. Et aujourd'hui, vous avez 12 lits parce que c'est fait pour 12 Anglais qui vont se bourrer la gueule comme l'étage du dessus et comme l'étage du dessous. Et en général, on a une pensée pour le pauvre Tchèque qui est le dernier à habiter le dernier étage.
Le couple de retraités d'Isabelle qui serait venu au week-end à Prague.
À qui on avait promis qu'il y aurait des vieux.
Loïc, vous connaissez bien le sujet parce que vous êtes en Bretagne et effectivement, cette région n'est pas épargnée non plus par une forme de surtourisme dans certains coins. Est-ce qu'on arrive quand même à endiguer ce phénomène ou pas ?
C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas se plaindre qu'il y a un attrait pour le littoral et c'est à fait normal parce que, et en même temps, ce n'est pas uniquement par le tourisme, c'est aussi lié à un déplacement de population, une population vieillissante et qui choisit d'aller vers le littoral pour s'installer. Donc ce n'est pas que le surtourisme, c'est, je dirais, on a une orientation, un déplacement de population vers le littoral qui pose problème. Bon, maintenant, il faut savoir appréhender les deux phénomènes. On ne peut pas se plaindre qu'une zone ait de l'attractivité parce que c'est bon pour le tourisme, il vaut mieux être maire de Biarritz que maire, je dirais, dans la Creuse, hein, parce que l'attractivité n'est pas la même.
Donc, c'est clair.
Je crois qu'il y a un rééquilibrage à faire. C'est là que les politiques publiques et locales doivent faire un arbitrage et un accompagnement.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Cédric, alors c'est un coup de gueule. On va commencer par le gouvernement. Est-ce que le logement fera les frais des politiques budgétaires?
Oui, alors en fait, il faut rentrer dans le moule. Donc, il fallait que j'ai un coup de cœur et un coup de gueule, mais en fait l'un va avec l'autre. Parce que en fait, mon coup de cœur, c'est que le
c'est
marché
taux,
repart
ouais.
grâce à la baisse des taux. Et en fait, voilà, j'ai ma casquette patrimoine qui est bien ancrée sur ma tête. Et je me dis qu'on a d'un côté, finalement, un monde de la finance qui a vécu son cycle, finalement, et qui est en train de faire, entre guillemets, ce qu'il doit faire ou ce qu'il devait faire, et qui donc rebaisse aujourd'hui ses taux. Et donc, on a des banques, on en a parlé, qui vont retrouver un peu d'air, on va avoir des acheteurs qui vont sans doute pouvoir un petit peu baisser, enfin augmenter leur appétit immobilier. Et puis de l'autre côté, on a l'autre partie du jeu, on va dire, qui reste pour le moment, entre guillemets, on n'a pas de signaux majeurs, là vraiment complètement bloqué. Ça fait des années, j'ai l'impression qu'on parle de ça, qu'on pointe du doigt les uns et les autres, et on a encore vu aujourd'hui Bruno Le Maire, je ne vais pas dire faire ses adieux, mais pas loin, on avait l'impression, enfin je veux dire, je sais pas, enfin moi j'ai halluciné en fait, j'avais l'impression qu'il était en train de nous dresser le portrait de nous dire que tout ce qu'il avait fait, c'était ce qu'il fallait pas faire, quoi. Enfin, bon, donc je me dis en fait
fou.
Voilà, donc en fait c'est un coup de gueule qui se regardent en miroir.
Ouais.
D'un côté, une partie qui fait son job parce que alors qu'on les a décriés, les banques, etc., parce que c'est le cycle qui veut ça. Et de l'autre côté, le politique qui, quoi qu'il arrive, en tout cas, nous a toujours pas donné le signal que la prise de conscience était faite. Alors, on verra. Vous avez voulu nommer notre invité ministre du logement en commençant. Mais on verra ce que la nouvelle équipe l'équipe nous dira. On sait qu'a priori, dans les gouvernements auxquels il a participé auparavant, Michel Barnier, c'était plutôt des gouvernements qui étaient assez proactifs sur pas mal de choses dans ce monde de l'immobilier et du logement. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression que les choses, voilà, on rame pas dans le même sens. Il y en a un qui rame et l'autre qui sort.
Ça tombe bien parce que grâce à vous, je vais pouvoir enchaîner sur ma transition. C'est exactement le sens des questions que nous souhaitons poser à notre grand invité, justement, qui est bien évidemment force de proposition depuis que vous êtes aux affaires avec la FNAIM pour faire bouger les politiques publiques. Et on va poursuivre d'ailleurs nos échanges avec vous, qui êtes président de la FNAIM. Loïc Quentin, si vous reprenez l'émission en cours, vous êtes la définition même, Loïc, d'un homme de terrain, et on est ravis de vous recevoir. Grande nouvelle, effectivement, vous l'avez annoncé, Cédric, on a un capitaine à bord, bon, on a un pilote dans l'avion, il s'appelle Michel Barnier. Alors on va aussi en discuter, parce qu'on ne peut pas éluder cette position. On attend impatiemment la gouvernance et la composition du gouvernement, voir comment sera traitée la partie logement, et on va parler bien évidemment, justement, de ce dynamisme du marché qui ne peut être qu'accompagner, les amis, en tout cas c'est mon point de vue, de politique offensive pour donner un logement aux Français, parce que, in fine, dans tout cela, c'est bien du logement des Français dont on parle. C'est parti pour le grand débat.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Loïc Quentin, vous êtes un homme de métier, vous avez 40 ans que vous êtes dans ce métier, vous avez tout connu. Vous avez connu les tendances, vous avez connu les crises, les périodes fastes. Quand on a le profil que vous avez et l'expérience que vous avez, comment on vit les moments actuels ?
Je vis cette crise comme les précédentes, mais je suis beaucoup plus inquiet, notamment sur les capacités de l'État et des politiques publiques à se saisir du phénomène, en prendre d'abord conscience et d'agir en conséquence. Parce que il faut avoir une véritable compréhension de ce qui se passe, et c'est une crise qui est à tous les étages, qui ne touche pas uniquement le secteur privé, qui touche aussi le secteur social, qui touche l'accession, la location, et je le redis souvent, et donc qui touche, je dirais, tout l'écosystème du logement, et qui compromet le parcours résidentiel des Français, que ce soit en location ou en accession. Alors maintenant, ce qui change par rapport aux périodes précédentes, c'est que hier, si nous avions des moyens à disposition, nous n'en avons plus. On ne peut plus dépenser et pour plus accorder pour le logement. Ou alors, c'est un choix politique, c'est un choix budgétaire, mais un choix qui nous coûte et qui nous coûtera cher, parce que, dans tous les cas, ça serait générateur, notamment de tensions monétaires et de hausse des taux d'intérêt. Donc c'est très compliqué. La feuille de route, elle est difficile, mais je dirais que cette crise, elle est historique. Elle est aussi, je voudrais que, elle est la conséquence d'un aveuglement, je dirais, des politiques du logement où pendant, depuis 2009, dernière crise économique, crise de subprimes, les taux d'intérêt sont à 5,40 et on arrive jusqu'à 2022, un atterrissage, à des taux d'intérêt de 0,68 au plus bas. Et personne ne s'émeut qu'un jour ou un autre, tout va retomber. Le carburant de l'immobilier de façon aveugle a été la baisse des taux d'intérêt de façon tendancielle, régulière et progressive. Et aujourd'hui, on dit, la petite musique, on va refaire partir les taux d'intérêt. Moi, je dis attention, notamment à une hausse artificielle des prix qui n'a rien à voir avec la valeur de l'immobilier. Et là, je vais être provocateur. On a une belle institution en France, le Haut Conseil sur la stabilité financière. Mais on va les saisir, leur demander de faire des préconisations pour avoir une stabilité financière qui n'altère pas le niveau des prix du logement des Français. La baisse des prix, elle est salutaire, et cette baisse des prix programmée, il ne faut surtout pas l'oreiller. Voilà la position.
Donc, c'est très intéressant ce que vous dites.
Oui, c'est une...
En fait, ce que vous dites, c'est que la période de taux qui était normale aujourd'hui est plutôt une période normale. Régulière,
oui,
économiquement stable, oui. Plutôt qu'une période où on rasait gratos pendant 10 ans.
Il ne faut pas revenir à ce cycle inverse,
très intéressant.
Je dirais, qui viendrait encore une nouvelle fois dégrader le marché. Un taux d'intérêt à 4, ça ne me gêne pas. Ça ne gêne pas les acquéreurs. Ce n'est pas le taux qui est élevé, ce sont les prix.
Je suis tout à fait d'accord.
Oh oui, Isabelle.
Ah c'est, alors là, vous avez entendu.
Vous avez vu, hein, comme quoi.
Ah, oui.
Un commentaire peut-être, Bruno, sur la question.
Tu as dit en préambule que M. Quentin a une longue expérience dans l'immobilier. Moi, je veux savoir si on n'utilise pas à mauvais escient certains superlatifs. Si on regarde le nombre de ventes dans l'ancien, j'ai pris vos chiffres, chiffres FNAIM. Là, vous pariez sur 800 000 ventes à peu près à la fin de l'année.
On y est déjà.
Comparé au. Il y en avait combien l'année dernière ?
On est arrivé au maximum à 1 200 000.
Ouais. 1 200 000 en 2021.
Mais l'année dernière, on avait un peu plus de 900 000 ventes.
Oui, on était à 869 000 fin 2023.
Voilà. On a quand même eu 4 années précédentes à plus de 1 million de ventes par an. Donc, qui ont automatiquement siphonné, hein, quand même, le marché qu'on voit aujourd'hui. Quand je regarde le marché il y a 10 ans, 2014, combien de ventes ? 717 000 ventes.
Oui, je pense.
2013, 689 000 ventes. Alors, moi, je voudrais savoir où est-ce
que. 2009, 569 000.
Voilà. J'ai fait l'économie.
Et 2016, 830.
J'ai fait l'économie. Donc, c'est pour savoir si on parle de crise. Et, est-ce qu'elle se situe au niveau du volume de vente annuel ? Est-ce que c'est un bon baromètre pour vous ?
On ne reviendra jamais sur les volumes que nous avons connus hier. 1 200 000 transactions, ce n'est pas possible. On va avoir un équilibre à 859 000 transactions.
Donc, nous ne revivrons pas cette
époque. Non, on ne reconnaîtra plus ça.
D'accord.
Non, parce que quel était le carburant de la machine ? C'est la baisse des taux d'intérêt. Mais une économie...
L'endettement des Français.
Lié au taux d'intérêt, donc voilà, et une augmentation de la durée. Il y a une course au prix et une course à
l'endettement. Donc ce que dit Bercy avec l'inamovibilité du HCSF, c'était de ne pas plus endetter les Français, ils n'ont pas tort donc du coup.
Pas du tout.
Ils ont raison.
Ils ont raison, je crois que la problématique, c'est qu'il faut avoir une vision pour le logement. La vision pour le logement, c'est pas une vision d'avoir des prix de plus en plus chers. La vision pour le logement, c'est d'avoir des prix de moins en moins chers.
Oui, et un logement... Quid un logement de ceux qui disent qu'il faut relâcher les conditions du HCSF ? Ils se trompent ?
Ah non, mais relâcher les conditions du HCSF, c'est uniquement une protection avec un taux d'usure qui fixe notamment, qui empêche une augmentation trop élevée des taux. Mais aujourd'hui, le taux du HCSF n'a plus rien à voir.
J'ai pas souvenir qu'on ait exponentiellement critiqué la philosophie du HCSF.
Non.
Ce qu'on a critiqué, c'était le côté pratique, enfin le côté mal pratique du HCSF.
La
c'était
réactivité
de dire,
tardive.
Voilà, c'était de dire, on est en
mais
train...
Mais sur le taux d'endettement, par exemple, sur les 35%, il y en a qui disent, mais non, on devrait relâcher ça.
Non, pas du tout. Je crois que le propre d'un État, la seule chose qu'on maîtrise en France, qu'on pourrait maîtriser, qu'on n'avons pas su maîtriser et qui reste encore à maîtriser, c'est le coût du logement. On maîtrise le coût du logement, parce que c'est in situ, on le réalise, on a le foncier, on a les entreprises, les matières premières, la réglementation. Pourquoi il serait plus cher qu'une autre denrée qu'on ne fait pas appel à une délocalisation ? Donc je crois que le propre d'un pays, c'est de rendre le logement moins cher pour pouvoir dégager un pouvoir d'achat sur les autres secteurs et qui permettent un support à une industrialisation d'autres secteurs.
Pour réduire les prix, alors qu'effectivement, et vous avez raison, les prix de l'immobilier sont décorrélés de la capacité des revenus des Français.
Totalement. Et aujourd'hui, la propension à consommer du logement, elle est de plus en plus importante chez les ménages et pèse même sur les ménages moyens. Donc, nous, on est agents immobiliers, on n'est pas là pour dire d'entretenir des prix chers, on est là pour faire de l'arbitrage et on souhaite que le logement soit de moins en moins cher. Et tout le monde le souhaite. Et ça, c'est d'intérêt général. Mais il faut avoir une vision économique pour cela.
Alors, justement, je reprends vos propos. Vous avez souvent dit que les professions de l'immobilier étaient méconnues du grand public.
Oui.
Est-ce que, alors quand on vous écoute, on se dit, c'est hyper bien, hyper intéressant ce que vous dites. Est-ce que finalement, il n'y a pas une dichotomie entre le fait que les Français n'apprécient pas forcément ce type de profession, où elles sont mal connues, et pourquoi ?
Je crois qu'elles sont mal connues et méconnues et mal aimées. Je ne parle pas que de l'agent immobilier, je parle du syndic de copropriété, de l'administrateur de biens, parce que toutes les politiques publiques aujourd'hui ont été fléchées à opposer public et privé. Moi, je m'entends aussi bien que le public, il n'y a aucun problème. Mais je dirais qu'on a traversé une période où on a ciblé, on a mis dans le collimateur tout le secteur du privé qui était le responsable de tous les maux, alors qu'on est là pour se parler ensemble et trouver des solutions communes. La rénovation énergétique dans le secteur social, c'est exactement la même que dans le secteur privé. Ce sont les mêmes obligations et les mêmes contraintes. Le prix de revient d'un logement public, logement privé, c'est exactement la même chose. Je crois qu'on est là et tous, avec des aides différentes d'un secteur à l'autre, pour aider les Français à se loger. Et tout le monde participe de cette équation, que ce soit le social ou que ce soit le privé. Donc il faut véritablement, et je crois, cranter une vision stratégique de la politique du logement en France. Moi, je demande à l'État, c'est d'avoir une feuille de route à 25 ans. Quelle politique, quelle programmation de logement en construction neuve, où on les installe, les déplacements de population,
vous voulez le rétablissement du plan.
Comment ?
Vous plaidez pour le rétablissement du plan.
Bien évidemment, là, on est à l'aveugle.
Bien sûr.
On va avoir encore un ministre du logement qui va arriver, il va reprendre les dossiers d'hier, il ne sait pas où il va. Il faut une feuille de route. J'espère que Michel Barnier l'aura, mais je pense qu'il a une petite mobilisation pour le logement.
Une réaction, Jean-Marie Bandré.
Une réaction ? Non, je commence à m'habituer à voir l'humeur de Loïc Quentin quant à ce sujet-là. Je ne suis pas sûr qu'on se dirige vers un nouveau gouvernement avec un nouveau ministère du Logement qui vous dira quelle est notre feuille de route d'ici 25 ans. Parce que
je suis malheureusement d'accord avec vous.
Personne mais oui, mais j'ai le droit d'être optimiste.
Non, mais c'est entre l'optimisme et le rêve, c'est une chose. Personne ne sait si la France sera à gauche, à droite ou à l'extrême droite dans seulement un an. Tout est possible. À partir de là, personne ne sait quelle sera la prochaine politique du logement.
Bruno Meunier.
Et même à trois mois, est-ce que vous espérez qu'il va y avoir une modification du calendrier sur l'interdiction des passoires énergétiques ?
Ah bah, de toute façon, nous on le réclame depuis 18 mois, notamment que, parce qu'au 1er janvier 2025, c'est clair, on sort tous les G, tous les propriétaires de logements classés G, finalement, sont dans une insécurité juridique qui est telle.
Y compris les bons en cours ?
Mais tous les bons en cours, surtout les bons en cours.
Attendez, comment ça, les bons?
Ils ont été conclus un logement qui passe le 1er janvier 2025, qui est classé G, est indécent. De ce fait, le locataire peut saisir le juge judiciaire et demander une suspension de toute partie du paiement du loyer au propriétaire. C'est ce que je demande, moi.
Mais c'est 8% du parc locatif.
Hein. 18 mois. Oui, c'est ça. Hein. Mm. C'est ce que je demande depuis 18 mois. J'ai demandé, quand j'ai été élu au Congrès en 2022, à Olivier Klein, qui n'a pas bougé. Je l'ai rappelé à Patrice Vergrit, je l'ai rappelé effectivement à Guillaume Casbarian. Il y avait effectivement une disposition, l'État l'accompagnait. Malheureusement, c'était présenté dans le cadre d'un amendement sur la loi sur les copropriétés dégradées qui a été écarté. On se retrouve avec le même problème. Et dans tous les cas, on ne peut pas laisser les propriétaires de logements loués classés G dans une telle incertitude. Et ça, c'est pas pour sauver les locataires que je le dis, c'est pour éviter notamment qu'une attrition totale du parc qui nous guette.
Que comprenons-nous bien ? Vous êtes en train de nous dire que... Alors oui, là j'apprends quelque chose. Moi je pensais que c'était tous les baux. Bah, vous me dites si vous aviez compris la même chose. Tous les baux signés à partir du 1er janvier 2025 étaient soumis à cette obligation, s'ils étaient étiquetés, d'être rénovés. Mais là, on parle des baux en cours où les locataires pourraient enjoindre leur propriétaire, c'est bien ça ?
Bien sûr.
De faire les travaux, par exemple, sous peine de séquestration des loyers.
Mais
ou de...
Sylvain, la loi climat et résilience dit bien que sont frappés d'indécence les logements classés G loués au 1er janvier 2025. C'est-à-dire loués à compter et qui sont déjà loués au 1er janvier. C'est une interprétation juridique. La DHUP a fait une interprétation contraire. Tous les juristes de France sont d'accord en disant qu'un logement loué au 1er janvier 2025, qui est déjà loué, est indécent énergétiquement.
Même si le bail a été antérieur.
Tout à fait. Et nous, on demande que l'indécence énergétique ne trouve à s'appliquer qu'au moment de la conclusion d'un nouveau bail postérieurement à la date du 1er janvier 2025. Le propriétaire était conscient de ses obligations ou renouvelé à compter de cette date.
Isabelle ?
Moi, je suis entièrement d'accord avec le diagnostic de Loïc Quentin. Le problème, ce n'est pas les crédits, c'est les prix immobiliers qui ont complètement décorrélé des revenus.
Ah, je suis d'accord.
Et en fait, les revenus, ils sont divergents. Les revenus modestes, aisés, je dis que 10% des gens les plus modestes, aux revenus de vie les plus modestes, n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de vie d'avant 2008. À l'opposé, les 10% les plus aisés ont vu quand même des gains de pouvoir d'achat. Donc, dans l'équation, il y a le revenu et il me semblerait bien qu'on augmente les revenus les plus modestes, le SMIC, les petits fonctionnaires.
Donc vous êtes favorable au SMIC à 1600 euros ?
Oui, tout à fait. Alors peut-être pas d'un coup, mais en plus, ce n'est pas l'État qui va payer, hein, normalement. Ça fait rentrer des cotisations. Donc oui, il y a un problème de bas revenus et de paupérisation des locataires du secteur privé.
Et de l'accession à la propriété.
Et fait nouveau, l'accession à la propriété recule. Le taux de propriétaire était à 57,6. Maintenant, je crois, on est à 57,2. Ça ne s'est jamais vu depuis les années 80.
Et la proportion des primo-accédants est en train de s'effondrer.
Tout à fait.
C'est dramatique.
Donc, et d'ailleurs, il y a un autre chiffre. Vous avez vu l'étude INSEE qui a publié la charge contrainte du logement. Ça y est, on y est. Le logement est devenu le premier poste de dépenses contraintes. Il était de 18,1% il y a deux ans. 18,1% de charges contraintes, il est passé à 26%.
Alors, il est très variable selon les situations. Les locataires modestes du parc privé, c'est 40% de leurs revenus.
Ah oui, non, mais là, oui, on est sur des heures.
Il y a quand même... Donc, il y a un problème de revenus des classes moyennes et modestes. Ça, c'est certain. Il y a l'endettement. Ben, on a poussé l'endettement, le curseur, l'allongement. Là, on est au taquet. On ne va pas pouvoir...
Mais si on veut endiguer, Isabelle, et là, je soumets l'idée à tous, comment on fait dans un marché régi par la libre entreprise, par le droit sacro-saint de la propriété, Loïc Quentin, comment on fait pour endiguer un phénomène qui est un phénomène parfois spéculatif par nature sur des actifs immobiliers dans lesquels on n'a pas de prise. Est-ce que, comment on fait politiquement pour endiguer la hausse des prix? Il faut produire plus de logements, en fait. C'est la seule solution.
Plus de logements abordables.
Il y a deux façons. Alors, je vais être provocateur. Quand on a vu, effectivement, les taux d'intérêt baisser régulièrement, si à un moment, le HESF, qui existait déjà, avait dit, on bloque et on capte les taux. On arrête. On se ressource à moins cher, mais on prête au même taux.
Pas bête.
On stabilise les prix et l'écart de prix. On finance le logement social ou on met de la bonification d'intérêt pour les primo-accédants. Et cette solution-là, cette proposition, on y travaille et on va faire une proposition prochainement. Parce que si, en face de nous, on a un HCSF qui n'est pas capable de comprendre cette situation-là, parce que c'est son rôle, et là, c'est toute sa vocation et son objectif.
Ou un ministre du logement
qui le comprend, d'avoir une réflexion sur une stabilisation des taux qui a fait toute sa démonstration. Sylvain, c'est la première fois dans l'histoire de l'économie immobilière où le relèvement des taux a été, je dirais, aussi déflagrateur d'un équilibre du marché, l'ont entraîné vers de grandes difficultés. Il faut tenir compte des leçons du passé pour ne plus revivre ce que l'on fait. Vous connaissez ma théorie sur la portabilité, la transférabilité. Oui. Et je suis même maintenant pour la théorie du cap, effectivement, du taux d'intérêt. À la hausse ou à la baisse, effectivement, c'est comme la TIPP flottante. C'est
alors,
pareil.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre propos?
Pourquoi?
Parce que je prends la portabilité. Vous parlez de portabilité. Vous avez dit, vous plaidez par la portabilité. La portabilité, vous êtes d'accord, vous avez un crédit à un certain taux, vous avez la possibilité de conserver le même taux sur l'arbitrage de votre bien, donc, c'est-à-dire si vous achetez les amis un autre bien. Et si j'ai un taux à 0,85% que j'ai bien négocié pendant que c'était open bar et que je suis dans une perspective de taux où les taux sont plutôt à 3,50. Il y a une contradiction dans ce que vous dites. Parce que là, ce que vous dites, c'est la portabilité des taux quand ils étaient bas ou la portabilité des taux quand ils ont une certaine normalité.
Aujourd'hui, la portabilité, elle trouve à s'appliquer quand les taux sont hauts et bénéficier des taux bas qu'on a contractés ou dans le cadre d'une transférabilité. Maintenant,
donnez-moi un exemple.
Bah par exemple, vous avez emprunté à 0,80. Moi, j'ai eu des tas de cas autour de moi.
Voilà, et c'est
une mesure très populaire. Quand vous en parlez aux Français, les Français comprennent, les politiques ne comprennent pas. C'est incroyable.
Mais
vous
les banques comprennent très bien. Ils ne sont pas tout à fait d'accord.
Mais ça va mieux un peu. Je commence à avoir un peu plus d'affluence.
L'exemple, c'est quoi donc? J'emprunte à 0,80. Voilà, j'ai emprunté 300 000 euros à 0,80. Voilà.
Je suis confronté à 4,2. Je suis muté, je dois aller à Lyon, je pars de Paris, Lyon,
je dois vendre
mon appartement. Ouais. Je suis obligé de rembourser mon crédit. La seule chose, on dit, permettre aux Français qui a contracté à 0,80 de conserver l'emprunt en cours qu'ils portent sur une autre acquisition. Et ça, c'est possible. On l'a démontré que c'est possible dans les 5 premières années du crédit. Les banques ont dit, on ne pourra pas se ressourcer, etc., c'est pas possible.
Se refinancer. Absolument.
Et alors qu'elles ont déjà, effectivement, pris une garantie sur les pro-octroyés, c'est quelque chose qui est simple et qui a fonctionné, et qui, de plus, figurait dans les contrats de prêt qu'ils avaient octroyés, qu'ils ont supprimé des clauses générales.
Ça existait.
Et même, moi, j'ai commencé à vendre de l'immobilier en 1979, Charles Sylvain, et je pratiquais la transférabilité des prêts Crédit Foncier de France au profit d'acquéreurs quand on vendait des biens avec la reprise de crédit. Je dis aujourd'hui, j'insiste là-dessus, et je pense que les banques l'ont entendu, je dis même si on le fait pendant 2 ans, le temps de cette crise qui est difficile, mais même si un grain de sable, ça ne coûte rien à l'État.
Comment on décide de ça?
Ça ne coûte rien aux banques. Comment on
décide de cela?
C'est
à la libre initiative de la banque ou il faut passer un statut?
Mais ce qui est pire, ce qui est hypocrite, c'est qu'il y a des banques françaises qui le pratiquent pour des bons clients, et ce qui n'est pas normal. On le pratique pour tous ou on ne le pratique pas.
Vous êtes en train de m'en dire que quand on a la cote avec son banquier, c'est plutôt pratique.
Ah bah si, oui, c'est vrai.
Oui, c'est souvent le cas.
Quelques réactions, parce que là, quand même, c'est intéressant comme analyse. On ne l'entend pas souvent, hein. Cédric.
Mais en fait, il faut lire son contrat de prêt bancaire. Il y a des tonnes de clauses. Dans une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il fallait négocier son taux. Mais alors, tout le monde était obnubilé sur son taux. Mais moi, j'ai des dizaines de courtiers ou de banquiers ou ou d'agents immobiliers qui sont venus sur les différents plateaux que j'animais pour dire mais vous arc-boutez pas sur le taux, c'est beaucoup plus important de pouvoir transférer son prêt ou de pouvoir renégocier son prêt ou de pouvoir rembourser son prêt sans frais plutôt que de gratter 0x% de taux. Il suffit de lire son contrat bancaire qui peut encore pour certains aujourd'hui réserver ce genre de possibilités parce que des vieux contrats il y en a encore.
Notre directeur des études préféré chez Bien Ici, quand vous nous écoutez, qu'est-ce que ça évoque comme idée?
Moi, plusieurs réactions. Déjà, on parle de crise immobilière, mais c'est une crise du logement et c'est une crise réelle du logement. Parce qu'on va avoir des personnes qui n'arrivent pas à se loger selon leurs moyens et selon leur partie de budget à adapter au logement. On a d'un côté plusieurs problématiques. On va voir les DPE, on va voir les prix, on va voir les crédits. On a beaucoup de choses à penser. Dans le cadre du crédit simple, baisser le taux d'intérêt à des taux qu'on a connus avant qui ont fait monter les prix, c'est pas ça qui a fait monter les prix sur les trois dernières années. Ce qui a fait monter les prix, c'est le renouveau de l'envie des ménages de revoir la position de leur logement, notamment avec des contextes de télétravail, avec des envies différentes de logement, qui a fait qu'on est arrivé dans une pénurie un peu d'offres à un moment donné, où tout le monde voulait habiter au même endroit. Et du coup, ça fait monter très fortement les prix.
Bordeaux, par exemple, typiquement ou...
Alors, plusieurs villes. Bordeaux, c'est pas nouveau. C'est pas depuis la crise sanitaire.
C'est
Bordeaux, ça fait 15 ans qu'on dit que c'est le nouveau Paris. Donc, il y a plein d'endroits comme ça. Et quand je parlais de baisse des prix de l'ordre de 4% sur 12 mois, on reste toujours au-dessus des prix qu'on avait avant la crise sanitaire. Et bien au-dessus. Donc... cette régulation-là doit pas se faire uniquement par le crédit, mais vraiment par rapport au budget réel qu'on doit associer au logement. Et bien évidemment, ce qui bloque le plus, c'est l'apport financier et bien évidemment l'aide de son banquier. Et je ne doute pas, comme M. Quentin, que chaque banquier sait faire en sorte de retrouver toujours un moyen d'y arriver. Quand on parle de portabilité, il y a toujours des conditions, il y aura toujours des conditions qui vont faire que le banquier va garder plus longtemps. Quand on souhaite déménager en seconde accession, derrière, on repart sur un crédit encore à nouveau, un peu plus long. Enfin, il y a toujours des conditions qui se jouent comme ça. Donc les solutions, elles existent. C'est le système de mise en place qui est compliqué et qui est lié à beaucoup de contraintes supplémentaires, à la fois dans la composition des ménages, dans les règles de DPE, dans les règles de marché où on revoit de l'intérêt plus important dans son logement.
Loïc,
c'est pas simple tout ça.
Sur l'analyse, je voyais que vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur une partie.
Non, parce que de toute façon, je dirais que c'est un principe keynésien. On donne du pouvoir d'achat par effectivement une amélioration de la capacité d'emprunt, on la répercute sur les prix. C'est classique. Donc voilà, c'est les taux, la baisse des taux d'intérêt qui a nourri l'augmentation. On ne peut pas la nier aujourd'hui.
Juste, il y a aussi.
Il y a un effet demande et il y a un effet taux. Un effet demande certainement sur des zones attractives, mais c'est surtout l'effet taux qui l'emportait.
Il y a juste aussi une question peut-être qu'il faudrait trancher. C'est la question des normes aussi qui a surenchéré le prix du logement. Enfin, je veux dire, je pense à tout ce qui est les normes thermiques.
Pas encore.
Oui, pas encore.
Pas encore. C'est la loi prochainement.
Ce qu'exige le Pinel Plus, enfin, je veux dire, avec les extérieurs pour les logements, le fait que certains appartements doivent obligatoirement être traversants, etc., etc. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui contribuent aussi à renchérir le prix du logement.
Jean-Marie ?
Non, c'était une question de Béotien que je voulais poser, puisque je ne suis pas journaliste immobilier d'origine. Sachant que l'accession à la propriété est en berne, est-ce qu'on sait mesurer précisément l'impact que ça a sur le montant des loyers ? Puisqu'en toute logique, un nouveau propriétaire en moins, c'est un locataire qu'on garde. Et à un moment ou un autre, la demande d'appartement à louer va...
Je complète. L'INSEE vient de publier dans son rapport que de façon graduelle, le nombre de locataires ne fait qu'augmenter et qu'on se situerait presque dans un modèle à moyen terme qui ressemblerait à l'Allemagne.
Donc l'impact sur les prix.
Oui, non, mais de fait, si la rotation n'est pas assurée, si on ne peut pas devenir propriétaire parce qu'on reste que locataire, et qu'à côté on a un parc locatif et un investissement dans l'ancien qui est de moins en moins intéressant, on a une construction neuve qui est en panne parce que qui est encadrée par des prix de plus en plus élevés et des contraintes, comment faire baisser le prix du neuf ? Il y a un nouveau
donc
combat de la fédération, et je vais le mener, et même si on me dit je suis provocateur, moi j'ai reproposé à des députés, c'était une proposition de la FNIM dans le cadre du CNR, on interdit aux promoteurs de de vendre les logements à perte aux bailleurs sociaux. On vend au prix réel et on diffère effectivement cette prise en charge qui revient aux bailleurs sociaux. C'est à la charge de l'État que l'État prenne sa charge pleine et entière de financer tout ce qui est nécessaire dans le parc social. Et laissons le marché ajuster un prix à son prix normal. Moi, je prends mon cas à Nantes. On vend un logement en moyenne 5 500 dans le neuf. On le vend à bailleurs sociaux à un prix de perte à 2 400 € du mètre carré. La différence, c'est autrement, on aurait vendu à 4 000. Donc c'est ça la réalité du marché. Donc si on veut faire baisser effectivement les prix du neuf...
Pour autant, on aurait vendu tout à 5 500 €.
Oh non, pas forcément.
Ben oui, bien sûr.
Non, mais
il s'aligne au marché.
Mais non, mais parce qu'il y a une réduction d'impôts, chère Isabelle. C'est pour ça qu'effectivement,
il peut vendre. Ce qui me ramène à cette question quand même, est-ce que dans les années qui viennent, compte tenu de la situation actuelle, on va constater des augmentations graduelles de loyers?
C'est le cas.
C'est le cas,
indéfiniment.
Non, mais c'est le cas, et c'est cher, et c'est de plus en plus cher. Et alors, j'ajoute, pour justement le débat dans la dernière partie de l'émission, il y a une loi, il y a trois choses sur lesquelles je voudrais que vous réagissiez pour conclure. Je voudrais que vous nous parliez justement de ce que vous attendez sur le plan politique, et notamment la loi qui va finalement être examinée, qui est la loi d'Anaïg Le Meur. Je ne sais pas si vous avez vu sur les journaux, ceux qui vendent du Airbnb ou qui font de l'exploitation, on dit vous allez nous tuer, c'est la mort du Airbnb, vous n'avez pas vu tous ces posts incroyables. Alors qu'en réalité, quand je lis la loi, je vous le dis, moi je trouve qu'il y a une espèce d'équité, d'alignement fiscal, parce que c'est quand même
c'est pas tout à fait juste
qu'on puisse être exonéré de telle ou telle obligation quand on fait du saisonnier et quand on a retiré du marché de la location vide. Il n'y a qu'à voir à Paris, il n'y a plus une location d'une petite surface vide pour des personnes en bail longue durée. J'aimerais vous faire réagir là-dessus parce que là, franchement, il y a un combat peut-être à mener entre ceux qui disent vous nous ôtez, vous allez tuer toute une industrie, etc. J'aimerais avoir votre avis, Louis Quentin.
Moi, on soutient depuis le départ la proposition d'Anaïg Le Meur, parce qu'il est temps d'avoir une harmonisation fiscale. Quand on voit les dégradations que ça provoque sur les marchés, je reprenais les chiffres tout à l'heure sur Paris, la proportion des logements meublés, on avait 11,8% je crois en 2008. En 2020, on est à 27,6% de logements meublés. En 2024, on est à plus de 30%. Donc, on a plus du tiers de l'offre qui est en meublé. Toutes les grandes agglomérations. Donc, le meublé.
Et pour des raisons fiscales. Alors, moi, je comprends les propriétaires.
Touristique devient un échappatoire fiscal.
C'est rentable, c'est intéressant fiscalement. Moi, je comprends le propriétaire.
Alors, moi, si j'étais.
En
plus de la proposition de la Anaïg Le Meur, moi, si j'étais ministre du budget, je mettrais 20% de TVA sur toutes les locations Airbnb. Comme ça, on masquerait un petit peu tout le monde.
Non, mais c'est vrai.
Et puis, effectivement, ça ferait une recette pour l'État, ça serait une taxe nouvelle, puisque en dehors de la taxe de séjour qu'on récupère, on pourrait au moins récupérer une TVA additionnelle.
Une réaction là-dessus, Bruno, peut-être ?
En même temps, après, c'est un peu dissuader les investisseurs. Pourquoi ils s'embêteraient à avoir une rentabilité à moins de 3%
On trouve plus d'investisseurs dans le vide. On trouve plus d'investisseurs. Vous savez, avant, et moi je soutiens cette théorie-là, quand j'ai commencé mon activité, un propriétaire qui louait, il avait un abattement de 35% sur ses revenus.
Oui.
Il est passé à 25, à 20, à 18, à 15, à 12, à 10, à 8, à 6, à 0. Et on a 20 euros aujourd'hui par logement d'abattement. Voilà ce qu'il y a pour faire face effectivement au renouvellement ou à l'amortissement d'un bien. Et donc aujourd'hui, il y a une distorsion totale par rapport à un LMP qui lui bénéficie d'un abattement qui va jusqu'à 71% sur les revenus. Il faut savoir ce que l'on veut. Ce n'est pas la qualification de meublé qui amène un avantage fiscal aussi fort. Alors, je vais être provocateur. Je dis souvent, c'est quoi un logement meublé ? C'est un logement vide avec 1 500 € de meubles Ikea ou les meubles de la grand-mère. Ça ne suffit pas à s'exonérer et notamment avoir un avantage fiscal aussi fort.
C'est vrai.
Donc, je vais être provocateur, mais je crois qu'il faut aussi se poser la question. Il faut un rééquilibrage. Ma seule crainte, c'est que dans la loi de finances, on profite justement du dispositif d'Anaïg Le Meur en disant, oui, il faut supprimer cet avantage, mais on ne rééquilibre pas au profit du secteur libre, et là, ça serait une erreur. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui une partie de l'avantage fiscal vers l'allocation libre.
C'est très important ce que vous dites, Loïc Quentin, parce que vous êtes le porte-voix de toute une industrie. Et dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est extrêmement apprécié du public, c'est justement cet alignement fiscal. Donc, et je suis très content que vous le disiez, et je m'adresse à vous, les amis, parce que ce ne sont pas les professionnels qui artificiellement font grimper les prix. C'est ça que j'entends. Et que souvent, on attribue, et à tort, et on le sait avec Cédric, parce qu'on en a fait quand même un sacré paquet d'émissions sur la question, on fait de l'intermédiation, et parfois il y a des circonstances, et on peut le comprendre d'ailleurs. Moi, je ne tape pas sur les petits propriétaires. Quand vous avez, c'est 71% d'abattement, que vous n'avez pas de contrainte de DPE. Non, mais oui. Isabelle, pas de contrainte de DPE.
Non, mais c'est...
Non, mais on marche sur la tête.
Ça fait trois ans qu'on se bat, que des parlementaires se battent et qu'on n'arrive pas à arriver au moins à un alignement.
Avec les professionnels.
Non, mais par contre, dans ce que dit Bruno, il y a quelque chose de très vrai, qui est très pragmatique, et même qui est une vision du béaba économique d'une économie de marché, c'est que comment ne pas dissuader l'investissement. Parce que là, on vit quand même, vous l'avez dit, il n'y a plus d'investisseurs dans le vide, parce que c'est carrément un vrai désinvestissement. Donc c'est une classe d'actifs qui va souffrir durablement. Comment on fait pour restaurer la confiance et de dire que pour rétablir l'équilibre.
Mais qu'est-ce qui a supprimé le Pinel ?
Et donc, très intéressant. Non, mais revenir au 35% d'abattement ou, par exemple, aller vers l'amortissement, c'est-à-dire du bailleur privé,
statut du bailleur privé, c'est un amortissement qui est pratiqué sur le prix, qui équivaut exactement à la même chose, qu'on applique une déduction calculée sur le prix à partir d'un taux, ou qu'on applique une déduction forfaitaire sur le loyer encaissé, c'est exactement la même chose, on arrive au même système, mais les Français savent ce que c'est qu'un abattement forfaitaire sur des loyers encaissés, c'est beaucoup plus lisible à notre avis, on soutient la déduction fiscale au titre de l'amortissement. Donc voilà, et c'est un bon système pour réfléchir, mais je pense que c'est une des pistes, mais aussi c'est vrai que Isabelle l'a dit, la sortie du Pinel, et on a habitué le secteur de la construction neuve à un système de défiscalisation depuis 38 ans, et on annonce la suppression du dispositif sans trouver un système de relais. Autant dire que la profession neuve est à l'agonie, et elle va continuer de l'être.
Non, mais surtout, sèche le marché locatif. Moi,
oui,
j'ai...
Mais je ne veux pas soutenir forcément le Pinel. Dis qu'il faut soutenir la construction neuve et flécher celle-ci en accordant un avantage aussi bien aux locatifs qu'à la primo-accession et aux accédants, et clarifier et assainir la formation du prix de l'immobilier neuf qui est déterminante.
J'aime beaucoup cette émission.
Comment faire baisser les prix ? Comment faire baisser la charge ? Il y a quand même un outil qui a été créé par Pierre-André Périssol en 1995 qui s'appelle le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro, c'est une façon de faire baisser les taux d'intérêt.
Qui n'a cessé d'être raboté par l'État et depuis 10 ans
ça
avec
dépend,
Emmanuel Macron.
Ça dépend, il y a eu... Et donc, c'est quand même un outil assez souple.
Tout à fait.
Et qui ne relancerait pas l'inflation des prix s'il est ciblé sur des gens précis, sur des secteurs précis. Donc, si vous ciblez le prêt à taux zéro, vous pouvez relancer une partie de la primo-accession à la propriété.
Et donc, le logement abordable.
Et pour faire moins cher, moi, c'est les exemples suisses que j'ai vus.
Elle aime la Suisse, mais c'est incroyable.
Oui,
on y a droit tous les mois.
Elle a un compte, là-bas.
C'est pas le dernier. Les coopératives suisses... coopératives suisses... Il y a un administrateur d'une coopérative suisse qui s'appelle Les Ailes, parce qu'elle a été fondée par les employés de Swissair. Swissair n'existe plus. Mais c'est très facile de faire du logement pas cher. C'est extrêmement simple. J'emprunte sur 100 ans. Mais les locataires ne récupèrent pas. Il n'y a pas de plus-value à la sortie. Ça ne sert à rien d'emprunter sur long terme s'il y a des plus-values. Donc, on pourrait, et c'est aussi ça, les organismes fonciers solidaires,
Le BRS, etc. Ça ressemble un peu à ça, quand même.
Oui, tout à fait. Et nous, on a une banque, une très grande banque, qui s'appelle la Caisse des dépôts, qui fait des prêts long terme, et on pourrait ouvrir ces prêts long terme à un certain nombre d'institutionnels ou de coopératives, etc., mais à la condition que ça ne relance pas le marché spéculatif.
Une réaction rapide, et on va devoir conclure l'émission.
C'est facile à faire,
mais je voudrais réagir après ce qui a été dit sur la hausse des prix. Tu le disais très justement, on est dans un secteur libre. C'est quand même bien difficile de gérer ça.
On ne peut pas décréter, vous n'avez plus le droit de vendre à tel prix. Et puis
Le marché joue son rôle, il n'y a aucun problème.
Vous militez pour un PTZ élargi à l'ensemble des prétendants.
Non, je ne milite pas. Dans l'ancien, le marché, on n'a jamais rien demandé dans l'ancien. L'ancien s'est toujours régulé de lui-même. Ce que je veux dire, j'attire l'attention de ne pas tenir de leçons du passé, ce qu'on a vu, et le phénomène d'augmentation des prix subis. Il faut y réfléchir. réfléchir, il faut essayer de trouver une autre trajectoire et ne pas revivre ce que l'on a vécu. Maintenant, sur l'accession à la propriété, quand on parle de paupérisation, oui, il faut accompagner les primo-accédants, oui, il faut restaurer effectivement un financement aidé sur le neuf. Alors le PTZ, on l'a supprimé sur l'habitat individuel, on l'a mis sur le collectif, mais avec les raisons que je vous expliquais, les ménages, même prêt au zéro, ne peuvent pas acheter aujourd'hui dans une ville, une grande agglomération, au prix où sont rendus les prix de l'immobilier collectif, ce n'est pas possible. Et puis, je dirais que maintenant, prêt à taux zéro, bonification d'intérêt, ça coûte de l'argent. Le problème, c'est la dotation budgétaire que nous n'avons pas et qui pose problème dans l'accompagnement de la politique du logement. Et tout va dépendre des orientations et des choix budgétaires dans la prochaine loi de finances.
Et donc le marché s'autorégule tout de même hein, au fil des mois. Je crois que vous êtes Nantais. Nantes, sans me tromper, je crois qu'il y a 8% de baisse en un an.
Oui.
Sur le marché nantais.
Oui. Oui.
Donc on revient un petit peu tout de même après un certain attrait important, etc. Voilà.
Oui. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Elle est salutaire et nécessaire, cette baisse. Voilà. Nous, on avait prévu à la FNM 5 à 7% en 2024. On va rester à 5 points sur l'ensemble et sur la moyenne nationale. Elle est très très bonne. Elle permet de compenser la perte de pouvoir d'achat. Mais il ne faudrait pas que l'inverse, notamment une baisse trop rapide des taux d'intérêt, provoquerait l'effet inverse de les faire rechercher.
En même temps, vous êtes entre le marteau et l'enclume, parce que ces 15 000 euros nécessaires pour passer à l'acte, grâce à cette baisse des taux, elles vont quand même alimenter le marché.
Oui.
Et vous êtes représentant d'agences.
Bien sûr.
Combien 46 000 agences, je crois, en France, c'est
oui,
ça
oui, hein. mais bien évidemment. Mais il faut faire attention, je dirais, à ces faits, un effet ciseau sur le marché, je dirais, et qui peut avoir effectivement un impact inflationniste.
Ouais.
Vous savez, un bien immobilier, il a une valeur qui correspond à des qualités, à ses qualités intrinsèques. En expertise, comment un expert aujourd'hui peut se baser sur une valeur quand ce marché est soumis comme un marché boursier à des fluctuations de taux?
Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Voilà. Ouais. Il va falloir raisonner. Moi, je suis là pour agiter, faire des propositions. Je suis un agitateur d'idées en tant que président de ma fédération et ouvrir des pistes nouvelles auxquelles on n'a pas pensé. Et ce qu'il faut à ce pays, c'est sortir des idées nouvelles, sortir des sentiers battus, être innovant et prospectif. Et c'est ce qu'il nous manque.
Je pensais au ministère du Logement. Moi, je penserais plutôt à Bercy, moi, en ce qui vous concerne.
Oui.
Il est l'heure de nous quitter. Je vous propose, comme je fais de temps en temps, un petit jeu pour terminer, pour tout finir sur une petite note positive. Je vais vous demander à chacun, je l'ai déjà fait avec certains, de donner un mot, un seul mot, un adjectif, une espèce de comme ça, un bullet point, qui illustrerait les propos et de manière très spontanée. Je vais commencer par Régis. Un mot, comme ça.
Je vais dire soleil, parce que j'ai pris la grêle tout
Alors,
à l'heure.
Soleil. Très bien. C'est libre, hein, c'est free. Isabelle.
Il y a une vision du marché du logement.
Non, mais un mot, il me faut un mot.
Prospective.
Alors, prospective, ah oui. On fait de l'économie avec Isabelle. Bruno.
Avertisseur.
Avertisseur, ah oui. Je vais demander à Théo de bien noter. T'as entendu, Théo? Avertisseur, on va se faire un klaxon là, pour le mois prochain. Jean-Marie.
Turbulent.
Ah oui, très bien. C'est pas votre cas, hein. Turbulent. Cédric.
Espoir.
Espoir. Je rappelle que je peux conjuguer les mots, mais je reste toujours sur le mot. Loïc, enfin.
Portabilité.
Portabilité.
Et panadiplose.
Alors, si les amis, vous souhaitez voir le soleil, il faut pour ça essayer d'user de prospective et de mettre à chaque carrefour des avertisseurs turbulents pour pouvoir porter un espoir qui sera dans la portabilité, et notamment ceux des crédits immobiliers.
Bravo.
Voilà.
Quel talent.
Voilà. Voilà. C'est bien de finir sur une note un peu légère pour illustrer le propos. C'est quand même le fond de notre émission, une émission dans laquelle il y a eu beaucoup de contenu. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, puisqu'effectivement, elle était dense. J'espère qu'on a répondu, en tout cas, posé des questions dans lesquelles on va débattre. On va se retrouver bien évidemment le mois prochain. Merci à Bruno Monnier-Vinard, journaliste au Point. On publie d'ailleurs un nouveau dossier, hein, c'est pour le 15 octobre.
Voilà. Voilà. Tout à fait.
Absolument.
Grand dossier de rentrée immobilière.
Absolument.
Avec beaucoup de sujets très originaux.
Absolument. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir, merci Bruno, d'y contribuer très modestement et avec beaucoup d'humilité.
À travers l'interview
d'Anne-Sophie Grabe.
Voilà, la présidente de.
Attends. Et au dernier numéro, d'ailleurs,
du CDC Habitat.
Absolument. Et d'ailleurs, le numéro, on l'avait consacré, le dernier, à Philippe Briand, président du groupe Arche. Un immense merci à Jean-Marie Bordry.
À samedi.
Voilà, mon mentor, c'est mon modèle. Voilà. Moi, quand je serai grand, je veux être Jean-Marie. Merci Jean-Marie. On se retrouve samedi matin. Un immense merci à notre ami Cédric Decoeur, le patron de Radio Patrimoine, qui nous fait rêver. C'est le seul qui me fait rêver avec du patrimoine. Il arrive à me faire comprendre les arcades, notamment avec Cœur de Patrimoine.
C'est important de gérer son argent.
Absolument. Absolument. Le cœur de patrimoine, que c'est toutes les semaines.
Tous les mercredis. Hein.
Voilà, tous les mercredis sur Radio Patrimoine, bien sûr. Un immense merci à notre directeur d'études préféré, voilà, notre dectornamiste, notre Albert Einstein de l'immobilier.
Jusque-là,
Régis Sévi, pour bien ici, voilà, un petit clin d'œil à Zineb, un petit clin d'œil à Philippe de Lignyville, à Grégory. J'espère qu'ils seront avec nous le mois prochain, ainsi que toute la gouvernance, Christophe Auger, Cyril Janin et toutes les équipes de bien ici. Je rappelle que bien ici aujourd'hui, c'est devenu le moteur de recherche, le portail d'annonces immobilières.
Incontournable.
Des Français incontournables. Bravo, c'est une très très belle réussite et vous êtes d'ailleurs soutenu par l'ensemble de la profession. Un immense merci également à Isabelle Ray-Lefèvre. Merci Isabelle, merci pour la Suisse.
Alors, on a les
je rappelle qu'on a un livre qui s'appelle Halte à la spéculation sur le logement aux éditions
Rue de l'Échiquier.
Voilà, l'édition du Rue de l'Échiquier. On met sur le podcast l'adresse des éditions parce que le livre est toujours en vente dans les kiosques, dans les bacs. On peut se le procurer sur Internet facilement. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Isabelle. En tout cas, c'est toujours un plaisir de débattre.
Il est même en vente à Bruxelles.
Voilà, en vente à Bruxelles. D'ailleurs, le débat, je précise, c'est toujours la bonne vitalité démocratique, hein, pour le dire. Et enfin, un immense triomphe à notre invité du jour, Loïc Quentin, qui ouvre le bal avec beaucoup de contenu pour le grand jury de la presse immobilière. Merci d'être fidèle à notre média. On vous en remercie et on vous souhaite que des belles choses pour les défis qui vous attendent et notamment sur le plan politique. Merci Loïc.
Merci Sylvain.
On se retrouve toutes et tous le mois prochain.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.